aussitôt après m'être décidé de tenter de faire le point sur la thèse prophétique nommée Millennium, j'ai dû admettre qu'il était déjà au départ pratiquement impossible de donner au terme prémillennium ou millennium une définition satisfaisant chacune des tendances religieuses enseignant cette théorie. Je n'ai par conséquent pas l'intention, ni même l'outrecuidance, d'épuiser le sujet ou de me poser en autorité sur la matière. Fondamentalement, il s'agit de l'idée de l'existence future d'une période littérale de 1000 ans durant laquelle Jésus-Christ reviendrait sur terre afin d'y régner à Jérusalem sur le trône de David. Les Juifs réintégreraient la Palestine en ayant le Fils de Dieu pour souverain d'un royaume matériel. La période de 1000 ans s'étendrait selon les cas entre le retour de Christ et le jugement final. Quatre thèses principales se détachent de prime abord. La première, le post-millénaire, c'est-à-dire Jésus revenant après le millénium. L'ancienne alliance est suivie de l'incarnation, l'expiation sur la croix, l'ensevelissement, la résurrection, l'ascension. L'Église est établie le jour de la Pentecôte et le millénium se situe durant la juridiction de la nouvelle alliance. Après une assez courte période d'apostasie, la résurrection des saints a lieu à la fin le triomphe de l'Évangile grâce à l'aide du Saint-Esprit. Les chrétiens sont enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. La terre est détruite. Le jugement a lieu. L'éternité commence dans de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il n'est nullement question ici d'un avènement politique dominant des Juifs avec Jésus régnant à Jérusalem. Cette thèse est purement spirituelle. Une résurrection simultanée de tous les morts sera suivie du jugement général et du règne éternel. Deuxièmement, il existe le pré-millénaire, c'est-à-dire Jésus revenant avant le millénium. Cette thèse est identique à la précédente jusqu'à l'établissement de l'Église, ère de grâce. Ce qui succède ensuite, l'apostasie de l'Église, le retour des Juifs en Palestine, la grande tribulation, l'établissement des 10 royaumes, l'apparition et le règne de l'Antéchrist, la manifestation des 2 témoins, l'avènement de Christ, la première résurrection, celle des croyants, le enlèvement à la rencontre du Seigneur, Satan est lié, la défaite de l'Antéchrist, la conversion totale d'Israël, espoir illusoire pour eux d'être sauvés en dehors de la foi, de la repentance et du baptême en Christ. Leur rencontre avec lui coïncide avec le début d'une période de 1000 ans de vie terrestre. Christ est le roi. Tout ceci donne une seconde chance à l'humanité d'obéir à l'Évangile. Après les 1000 ans, les événements suivants se déroulent. Satan est relâché, la coalition est vaincue, une deuxième résurrection a lieu, celle des rebelles, le jugement final est prononcé, la fin du monde survient. De nouveaux cieux et de nouvelles terres sont créés. C'est le début de l'éternité. Troisièmement, le pré-millénaire du dispensationalisme, qui divise l'histoire en une sorte de progression durant laquelle l'individu doit souffrir proportionnellement à sa conformité à la volonté de Dieu, exprimée par étapes et de manière différente. Chaque épreuve se termine nécessairement par un échec et un jugement de Dieu. Voyons maintenant comment se subdivisent en 7 points principaux ces différentes dispensations et leurs périodes intermédiaires. Première. La première dispensation est celle de l'innocence totale suivie de l'expulsion du jardin d'Éden. Deuxième. Puis vient celle de la conscience terminant par le déluge. Troisième. Celle du gouvernement humain, tour de Babel, dispersion des langues, etc. Quatrième. La promesse, promulgation de la loi, à cause des péchés de l'homme. Cinquième, dispensation de la loi. Ici intervient une période intermédiaire. L'incarnation, le rejet du Christ roi, l'ajournement du royaume juif, l'expiation sur la croix, l'ensevelissement, la résurrection, l'ascension. Et nous revenons au 6e point, qui est la dispensation de l'ouverture à la grâce par le mystère que constitue une église dont les prophètes n'avaient pas parlé. Les nations y sont jugées. À nouveau, une période intermédiaire de 7 ans, au cours de laquelle se déroule une foule d'événements. La première résurrection concernant les croyants. Ils sont enlevés à la rencontre du Christ, revenus glorieusement. Ils sont jugés pour être renvoyés vers la 7e dispensation. Entre-temps, les Juifs se sont alliés avec l'Antéchrist. Les conversions sont très nombreuses. Une période de tribulation commence qui va représenter une sorte de purification, d'élimination des toxines. Puis arrive la résurrection des chrétiens de la tribulation, rejoint par ceux de la première résurrection dont il était question il y a quelques instants. Les nations sont jugées et Satan lié. 7e point, la dispensation du millénium proprement dit, au cours duquel le royaume juif se constitue. Son ajournement, souvenons-nous, durait depuis le rejet du Christ roi. Le temple est reconstruit, le culte lévitique est rétabli, y compris les sacrifices sanglants, et j'insiste. À la fin de cette période de 1000 ans, les saints ayant vécu durant cette période ressuscitent. La deuxième résurrection, celle des rebelles tous les temps, la suit. Puis, Satan est délié, le feu du ciel s'abat sur la terre, la coalition entre le saint est détruite. C'est le jugement du grand trône blanc. La création de nouveaux cieux et de nouvelles terres, le commencement de l'éternité intervient. La quatrième thèse est celle du règne de fer, qui n'est en fait pas millénariste. Le millénium est remplacé, après l'endurcissement d'Israël, le rétablissement d'une église d'obédience juive et le jugement par une période d'une durée indéterminée appelée règne de fer. Ce nom, désignant l'époque durant laquelle Christ dominera le monde et dirigera par la force à l'aide d'un sceptre de fer. Après quoi, viendra le jugement de Satan, le jugement proprement dit, et enfin, l'établissement d'une éternité céleste. Les Juifs et leur influence sont prépondérants dans ce système. Comme vous avez pu vous en apercevoir, les thèses, les systèmes, les périodes sont très diversifiées. Et en faire la synthèse est vraiment impossible. J'insiste sur le fait que tout ceci est donné à titre purement indicatif. Je n'ai pas même cité les théories des témoins de Jéhovah à ce sujet. Cet exposé se veut documentaire et à ce point succinct qu'il passe délibérément sous silence la prétendue bataille finale d'Armageddon, commune à presque toutes les hypothèses millénaristes. Pourquoi ce combat? Et bien, à la fin des temps, les Juifs, dit-on, étant tous rentrés en Palestine, auront amené avec eux leurs richesses. Ces trésors exciteront la convoitise des nations environnantes qui fondront sur eux comme des vautours, à la fois par haine et par cupidité. Toutes les nations de la terre seront là. Il s'agit toujours d'une hypothèse. Représenté dans cet immense rassemblement général des forces armées du globe, et c'est à Armageddon que Dieu les écraserait toutes ensemble. Vous vous dites certainement que, jusqu'à présent, nous avons parlé d'une manière neutre, et je me suis soigneusement abstenu d'émettre une opinion. Les temps conditionnels, bien sûr, mis à part. Vous avez été les seuls arbitres en la matière. En toute objectivité et Bible en main, il faut maintenant parler d'un cinquième schéma que voici. Dieu fait une alliance avec le peuple d'Israël. Lorsqu'il décide que le temps est venu, il envoie son fils unique, qui après un ministère public d'environ 3 ans, s'immole sur la croix pour le péché du monde. Christ ressuscite et retourne auprès du Père. Une nouvelle alliance est passée avec tous les peuples de la terre. Son Église est fondée le jour de la Pentecôte grâce à la puissance du Saint-Esprit. À la fin des temps, les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis les vivants. Ceux qui ne connaissent pas Dieu ressusciteront également. Jésus remettra le royaume au Père. Les ressuscités iront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ce dernier ne posera donc pas ses pieds sur terre. Ensuite viendra le jugement. Ce sera le début de l'éternité et l'absence de tout millénium. Ici, tout est logique. Tout tient intelligemment en place. Tout s'appuie sur la révélation biblique et non sur des suppositions. Dans son livre « Retour de Christ et Millennium » par F. Buller, il est dit « Les textes prophétiques et les textes symboliques doivent être interprétés par les textes didactiques et non inversement. » L'enseignement général des Écritures, l'analogie de la foi en Romains chapitre 12 et verset 6 par exemple, auquel on parvient par une saine exégèse, est un guide plus sûr qu'une marqueterie de textes bibliques épars. Des textes séparés de leur contexte et de leur contexte immédiat ou lointain ne constituent pas de preuves suffisantes pour établir un système. La théorie du millénium est, comme nous l'avons découvert, complexe parce qu'ayant de multiples ramifications. Il ne s'agit donc pas d'une simple erreur, mais bien de tout un labyrinthe sans véritable fil conducteur. Cet enchevêtrement d'aberrations trouve son origine dans un monumental malentendu à propos d'un verset, c'est-à-dire Apocalypse chapitre 20 et verset 4. Il y est dit, ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. À partir de là, la Bible dans son entier a été tordue afin qu'elle finisse par encadrer les diverses combinaisons échafaudées dont le symbolisme évident est cristallisé et monté en épingle. Le peu de connaissances de la plupart des gens qui concernent la prophétie, son accomplissement et la relation exacte existante entre le langage littéral et figuratif a fait le reste. Une seule règle qui semble être constante dans ce genre d'étude de la Bible est d'interpréter littéralement tout passage biblique utile au renforcement de la thèse du millénium. Cette thèse constitue un des plus grands obstacles et met en danger une saine compréhension de la Bible et par là l'obtention d'une foi solide, pure, basée uniquement sur ce que la Bible dit. La plupart d'entre nous ne se rendent probablement pas compte du succès rencontré par la doctrine du millénium. Rares sont les sectes influentes se réclamant de la Bible qui n'adhèrent pas à une forme ou l'autre de règne terrestre et millénaire de Jésus-Christ. Il occupe une place de choix dans la doctrine de groupements tels qu'adventistes, mormons, témoins de Jéhovah, baptistes, pentecôtistes, évangélistes de tendances diverses. Vous avez pu vous en apercevoir, nous ne croyons pas que Jésus reviendra pour régner sur un royaume terrestre de prospérité et de paix. Cette période se situe dans le domaine spirituel et s'identifie avec le royaume. L'Église, sur laquelle Jésus règne déjà, seul son retour inaugure après le jugement l'éternité.